La commune aujourd'hui, pour nous, Saint-Antoninois, c'est un territoire très vaste, c'est là de 11 000 hectares, paraît-il, et qui couvre la campagne et la cité. Au Moyen-Âge, au XIIe siècle, une commune était une organisation politique. C'était, si vous voulez, une république urbaine. C'était une cité qui s'étant libérée du pouvoir des seigneurs, s'administrait elle-même, et c'est cette administration qu'on appelle la commune, ou la communauté.
Vous allez nous expliquer maintenant comment est née cette commune.
Voilà, et je l'ai dit la dernière fois, c'est à partir de la charte de coutume de 1140, document fondamental pour la vie de notre cité, parce qu'elle consacre la fin du règne des vicomtes, ou du moins le commencement de leur décadence, et la naissance de la commune, c'est-à-dire de la prise en compte par les habitants de la gestion de leur ville, totalement. Comment en est-on arrivé là? Je crois que tout le monde a pu le comprendre. Les vicomtes affaiblis ont dû céder le pouvoir à des bourgeois de la ville qui s'étaient enrichis en raison d'un développement considérable dû à la prospérité économique. Cette prospérité commence après ce fameux an 1000.
Alors, pourquoi l'an 1000?
Ah, l'an 1000, tu en as entendu parler, tout le monde en a entendu parler. L'an 1000, c'est l'année de la grande peur, de la terreur de l'an 1000. Par une interprétation un peu simpliste des Écritures saintes, les gens simples, et même les autres, attendaient en l'an 1000 la fin du monde, la catastrophe universelle, l'apocalypse, qui allait supprimer toute vie sur la terre et provoquer le jugement dernier. Alors l'an 1000 passe et... Oh joie, soulagement, libération, la terre continue quand même de tourner et les hommes de vivre. Alors tu peux imaginer un peu ce qui se passe, hein. Quand on sort d'un grand danger, on est prêt immédiatement à reprendre espoir. Et naît alors une incroyable espérance et une ardeur de vivre sans précédent. On assiste alors, et on le comprend très bien, quand j'ai parlé de cette ardeur de vivre, à une véritable explosion démographique dans le monde chrétien de l'époque. Elle s'accompagne de défrichements considérables. Il faut songer que depuis les invasions barbares, la plus grande partie de la campagne entourant Saint-Antonin était redevenue inculte, couverte de bois et de friches. Cette campagne va être défrichée et de nombreux paysans vont créer là des fermes, des masages, des hameaux, dont la plupart, sinon tous, subsistent encore, s'accompagnant ici et là de petites chapelles et d'églises, dont aujourd'hui le souvenir est tout à fait perdu, comme par exemple, sais-tu que près de chez toi, il y avait une église qui s'appelait Saint-Alose, qu'un peu plus haut, il y avait Saint-Martin de Lézignac, que sur le plateau d'Anglars se trouvait une église Saint-Jean d'Anglars, dont je me demande où elle pouvait être, à moins qu'elle ne soit peut-être à Veillervigne, je ne le sais pas. Donc voilà une campagne très peuplée, qui devient prospère, et par voie de conséquence, la ville elle-même se repeuple, décuple même sa population, et il se crée ici et là d'autres villes. Les hommes de la ville sont des artisans, ce sont des fabricants, ce sont des marchands, pour le travail desquels un progrès technique considérable a été effectué à cette époque-là. C'est la redécouverte et du moulin à eau que l'on va pouvoir établir facilement sur les rivières qui bordent la ville.
Oui, c'est donc à cette époque-là que les hommes redécouvrent le moulin à eau. Vous pouvez nous en parler un peu de ces moulins, ils existent encore?
Ah ben ils existent encore, mais malheureusement maintenant ils ne sont plus en activité, mais nous avons de nombreux témoignages dans les archives qui nous permettent d'assurer que le moulin du Gravier, le moulin de Fontalès, le moulin de Roumégousse, le moulin des Ondes, le moulin des Clostres et le moulin du Bessarel, sans parler des moulins qui s'échelonnent sur le cours de la Bonnette qui seront construits plus tard, enfin tous ces moulins en ville existaient au début du XIIe siècle et la plupart d'entre eux à partir de 1140. Ces moulins ont été la condition nécessaire au développement des industries. Bien sûr, ils servaient à faire la farine, mais au développement des industries qui vont faire la richesse de la ville.
Vous pouvez nous dire un peu pour quelle industrie ils étaient utilisés?
Eh bien, comme toutes les villes de cette époque-là, la première industrie, c'était l'industrie textile, rendue possible par la présence sur les pâturages des cosses de la campagne, de l'élevage du mouton. Alors, c'est l'industrie textile de la laine, mais pas seulement de la laine. Il y avait aussi la fabrication des toiles de chanvre, qui donnera une occupation considérable aux tisserands de Saint-Antonin. Donc, draps de laine, toile de chanvre. Ensuite, l'industrie des tanneries. Et on comprend pourquoi ces moulins, les canaux qui alimentent les moulins du Bessarel et le moulin des Clostres traverse Saint-Antonin, ils servaient aussi pour les tanneries, pour apporter l'eau aux tanneries. Enfin, au point de vue plus particulier et agricole, c'est le safran qui est cultivé en grande quantité, qui était une épice très recherchée au Moyen-Âge, en même temps qu'une teinture pour les étoffes, et qui sera exportée dans tout le monde méditerranéen et dans l'Europe du Nord. Et aussi, ce que les gens savent, je crois, les prunes de Saint-Antonin, qui vont devenir une des richesses considérables, importantes du commerce saint-antoninois.
Oui, les prunes et le safran sont restés un commerce important jusqu'à il n'y a pas très très longtemps encore.
Oh, pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, on peut dire que cela a constitué deux matières d'exportation qui ont fait la richesse de Saint-Antonin. Mais évidemment, toutes ces matières, on peut fabriquer des draps, on peut fabriquer des toiles, il faut exporter tout cela si on veut que la ville vive et s'enrichisse. Et il faut te dire aussi qu'à cette époque-là, le commerce entre les pays d'Europe et du bassin méditerranéen a été grandement facilité par les croisades qui ont recréé le mouvement d'échange qu'on avait perdu depuis l'Empire romain. Et puis, ce commerce à travers la Méditerranée a été aussi grandement facilité par la prise de la Sicile par les Normands, ce qui a débarrassé la mer Méditerranée des pirates, comme on dit, barbaresques.
Oui, alors ce commerce qui est en partie à l'origine de la prospérité de Saint-Antonin, vous pouvez nous en parler un peu ?
Ce commerce qui est en partie, il n'est pas en partie, il est totalement à l'origine de la prospérité de Saint-Antonin. Nous avions donc ici une classe qu'on appelait la classe des marchands, des gens qui vivaient du produit du travail des artisans, tisserands, tanneurs, filateurs, foulonniers, teinturiers, etc. Et ces marchands, nous le savons par des textes aussi, avaient des comptoirs sur les bords de la Méditerranée, à Perpignan, à Montpellier, à Gênes, en Italie, à Venise. Ils en avaient aussi dans l'Europe du Nord, en Flandre. Et on voit naître là déjà, pour ceux qui s'intéressent aux problèmes économiques, l'implantation du capitalisme à Saint-Antonin, puisque pour faire du commerce, on ne peut pas aller porter sa toile là-haut. Bon, on a un correspondant. Les monnaies n'étaient pas les mêmes, et il fallait faire un système de vente par correspondance, ce qui s'appelait alors faire des lettres de change. Et de là, la prospérité des changeurs. Il y avait à Saint-Antonin des changeurs, des banquiers, et la place de la Jogario a conservé le nom de ce quartier où vivaient les juifs banquiers de Saint-Antoninois.
Et on a du mal à s'imaginer maintenant comment pouvait se faire à cette époque-là le transport de toutes ces marchandises.
Oui, oui, parce que maintenant nous sommes complètement abrutis par les transports modernes, avions, chemin de fer, automobile, et il nous semble que, comme il n'y avait pas ça, au XIIe siècle, les échanges ne pouvaient pas avoir lieu. Les échanges se faisaient par bêtes de somme, par portage sur les bêtes de somme. Les mules, les juments, les ânes. Et l'on avait ainsi des caravanes qui emportaient les marchandises vers le lieu de destination, par exemple, de Saint-Antonin. Elles allaient à la foire de Beaucaire, et de là, elles pouvaient aller à un port de la Méditerranée, choisi à l'avance. C'était une caravane d'ânes ou de mulets qui était protégée, parce que les marchands, il fallait qu'ils se trouvent des aides pour protéger leur caravane, par des gens de service, des sortes de va-nu-pieds qui n'avaient pas le sou et qu'on payait pour ça, et qui deviendront à l'occasion des bandits, ça, ils ne s'en priveront pas. Ce qui fait qu'alors, avec ce commerce florissant, l'argent afflue dans la ville prospère, on va pouvoir construire, et la ville va devenir, à partir de 1120-1130, ce qu'elle est aujourd'hui, pour quiconque a un peu d'imagination. Évidemment, il faudrait un autre talent que le mien pour évoquer la vie de la ville à ce moment-là et des milliers d'habitants qu'elle abrite. 6, 8, 10 000, en savons-nous quelque chose? Nous n'avons pas de recensement pour le dire.
Oui, et comment on peut l'estimer la ville de Saint-Antonin par rapport aux villes avoisinantes?
Oui, alors ça c'est toujours par comparaison, par des documents pris dans les œuvres des historiens qui n'ont pas toujours porté à Saint-Antonin, il faut bien le dire, l'attention qu'elle mérite. Mais enfin, on peut dire que hormis Toulouse, Albi et Cahors, Albi et Cahors ayant environ 10 à 12 000 habitants, Toulouse entre 20 et 40 000, Saint-Antonin était la plus grande ville de la région, sinon, oui, je crois, la plus grande ville de la région, parce qu'il était plus peuplé que Millau et aussi peuplé que Rodez. Villefranche, vous le savez, n'existait pas encore. Quant à Montauban, elle ne sera fondée qu'en 1146 par Alphonse Jourdain. Donc c'était une grande ville. Et d'ailleurs, il y a un phénomène géographique qui vous permet de reconnaître que c'était une grande ville. On appelait ville à cette époque-là, et plus tard encore, était qualifiée de ville, toute agglomération sur laquelle aboutissaient cinq voies de communication. On dirait aujourd'hui des axes routiers. Vous les trouvez facilement à Saint-Antonin. Chacun de ces axes arrivant à une porte des remparts. Prenez, en tournant autour de la ville, quand vous la regardez et de la promenade des Tilleuls, vous trouvez la première porte, c'est la porte des Carmes, où aboutissait la route venant, l'ancienne voie romaine dont j'avais parlé une fois, qui passait par Peyrègue, Carandier, etc. Hein, et qui en même temps desservait la vallée de l'Aveyron. Première voie. Deuxième voie, sur la place des Tilleuls même, derrière voie arrive le chemin de Santou. C'était la voie de Caylus et du Causse de Limogne. Troisième voie, elle débouchait à la porte de la Condamine. C'était la route du Causse de Quercy, de Caussade, du Quercy celle-là. Hein. Quatrième et cinquième voie, qui débouchait au pont, à l'ancien guet romain, arrive là deux voies, qui se devinent encore aujourd'hui, celle qui monte par le sentier de la Vierge et qui allait sur Peine, Bruniquel et Montauban, ça c'était la voie du Quercy-Bas et du Languedoc-Toulousain, et la cinquième enfin, c'est l'actuelle route de Marsac, qui par Saint-Michel-de-Vax arrivait à Albi, Gaillac, et desservait ce qu'on appelait le Haut-Languedoc. Voilà pourquoi Saint-Antonin, il n'y a aucune prétention à affirmer que c'était une ville. Cette ville, alors, avait sa configuration d'aujourd'hui, avec ses nombreuses rues, ses ruelles, les mêmes à peu près à quelques détails près, bordées de maisons moins hautes qu'aujourd'hui, deux étages au plus, sans galetas. Ils seront ajoutés plus tard. Et alors, au rez-de-chaussée, chaque arcade qui abrite une boutique, un atelier, qu'on appelait l'Oujoubradous, où s'active, là, mais imaginez ça, prenez la rue droite, bordée d'arcades, la rue de la Pédisserie, bordée d'arcades, là vous trouvez des tisserands, des teinturiers, des peigneurs de laine, des peigneurs de laine et de chanvre, des cloutiers, des serruriers, des chaudronniers, d'étain et de cuivre, des orfèvres. Et de nombreux notaires et hommes de loi, tout cela travaille là dans les arcades, dans ces boutiques ouvertes sur la rue, cependant que les banquiers juifs, comme je l'ai dit, se réservent le quartier de la place de la Jouarre. Les rues sont encombrées, un peu plus qu'aujourd'hui, il faut le dire. Il y a des passants partout, du monde partout, des acheteurs, des crieurs de denrées à vendre, d'enfants, de bêtes, des ânes, des mules, tout ça chargé de marchandises. Tout cela grouille dans un tohu-bohu indescriptible, d'où surgissent évidemment les cris des marchands ambulants. Ajoutez à cet encombrement, à ces cris, à cette foule qui se bouscule, qui se croise, qui s'entrecroise, les innombrables chantiers qui se sont ouverts là, dans la ville, depuis le début du XIIe siècle. Sur la place actuelle de la Halle, les tailleurs de pierre, Los Peyriès, finissent le ravalement de la maison neuve Granolliette, le musée actuel. Et des peintres, sur des échafaudages, peignent de couleurs vives les sculptures admirables de la galerie. Au monastère, ici, Au milieu des échafaudages gigantesques s'élèvent les murs de la nouvelle église abbatiale, avec son très beau portail roman, ses chapiteaux ciselés, dont par bonheur nous avons pu retrouver un exemplaire en 1976 et qui est exposé actuellement dans la galerie basse de la mairie. Dans toutes les rues de la haute ville principalement, où habitent les riches, ce sont des chantiers partout pour l'édification de ces splendides façades romanes aux fenêtres géminées dont il ne subsiste plus aujourd'hui que quelques traces. La ville se fait ou se refait, la ville vit et les riches bourgeois vont peu à peu prendre en main la totalité de l'administration de la cité par la création du consulat. C'est en effet vers la fin du XIIe siècle qu'est créée cette institution, qui sera officialisée par la deuxième charte de 1203 dont j'avais déjà parlé, charte confirmée par le comte de Toulouse,